Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Depuis les Jeux Olympiques de 2014 et la débauche d'investissements somptuaires, c'est à Sotchi, au bord de la mer Noire, que Vladimir Poutine aime traiter ses invités de marque. À partir de mardi prochain, à son invitation, une cinquantaine de chefs d'État africains vont se réunir pour un sommet sans précédent. La Russie entend célébrer avec pompe son grand retour sur le continent. On se souvient de la guerre froide qui avait fait de l'Afrique un de ses terrains de jeu. Une génération entière de dirigeants et de militaires formés en Union soviétique au dogme du marxisme et de la fraternité entre les peuples. Certains, d'ailleurs, sont encore au pouvoir aujourd'hui. Depuis, en marge du désengagement parfois brouillon des anciennes puissances coloniales, toujours soucieuses de préserver leur emprise économique, on a vu à quel point la Chine a pris le relais, pénétrant les marchés africains, encourageant le développement de sa diaspora, échangeant infrastructures contre accès aux matières premières. Ce que l'on observe moins volontiers, tant l'échelle et les méthodes diffèrent, c'est le retour de Moscou sur ce continent de tous les maux et de toutes les promesses. Quels sont les pays qui retiennent aujourd'hui l'attention et les faveurs de la Russie? Avec quels objectifs stratégiques? Malgré une économie et une démographie chancelantes, la Russie affiche d'autres priorités, et d'abord avec succès, au Moyen-Orient. Quels sont alors les moyens que Moscou peut déployer en Afrique et pour quels résultats? Quels gains pour les pays et les populations concernées? Jusqu'à quel point les ambitions russes bousculent-elles les intérêts français et occidentaux? Faut-il y voir un début de concurrence avec Pékin? Et puis, que vient donc faire dans cette histoire cet oligarque que l'on surnomme le cuisinier de Poutine et ses mercenaires? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Thierry Vercoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale à l'Institut français des relations internationales. Arnaud Kalika, expert sur les questions de sécurité, spécialiste de l'Afrique. Pauline Choubard, vous êtes consultante, spécialiste vous aussi des questions sécuritaires et économiques sur la zone Russie-espace post-soviétique.
Bonjour.
Et Karine Pina, merci d'être là. Vous êtes chercheuse associée au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Thierry Vercoulon, je commence avec vous. Ce sommet de Sotchi, c'est bien la première fois qu'autant de chefs africains sont reçus par Vladimir Poutine. Est-ce que cela signifie que c'est maintenant, de la part du Kremlin, un tournant vers l'Afrique, après ce tournant vers l'Asie que Vladimir Poutine avait marqué avec phase?
Oui, tout à fait. C'est une volonté délibérée de s'afficher comme un partenaire du continent africain, qui fait partie à la fois une sorte de généralisation depuis le 21e siècle. Avant, les sommets Afrique et un pays, c'était la spécificité de la France au 20e siècle. Au 21e siècle, on a vu ces sommets se multiplier avec évidemment la Chine, avec la Turquie même, avec également le Japon, les États-Unis, etc. Donc maintenant, tout le monde veut avoir son sommet avec l'Afrique. Et donc la Russie également va dans cette direction. Et on voit que l'Afrique est en fait un continent qui reste dans une position très faible sur le plan international. La preuve, c'est que ces sommets sont toujours l'ensemble du continent et un pays. Ça montre que l'Afrique reste en effet un théâtre de rivalité internationale et un peu un continent où on essaie d'avoir des parts de marché et des parts d'influence diplomatique.
Et quelles sont les étapes de ce retour de Moscou? Ça a commencé il y a quoi? Il y a une dizaine d'années?
Alors, j'aurais tendance à dire que ça est le tournant, sans doute, ça a été la crise ukrainienne, où là, la
Russie... Ça, c'est 2014.
Hein. 2014, où la Russie a été mise sous sanction par les Européens et par les États-Unis. Et donc, Moscou a besoin de trouver à la fois de nouveaux alliés diplomatiques, mais aussi de nouvelles opportunités économiques. Et donc on voit qu'ils jouent dans leur politique africaine à la fois sur le diplomatique, sur l'économique et quand on parle économie, il faut aussi parler du militaire en ce qui concerne la Russie.
La Centrafrique, c'est là où le Kremlin a décidé d'investir les moyens les plus visibles en tout cas.
Les plus visibles, mais la vraie porte d'entrée en fait, ça a été le Soudan. Où le Moscou et Khartoum ont noué un partenariat. C'était directement avec le président soudanais Al-Béchir qui est tombé cette année. La présence russe s'est d'abord implantée dans ce pays. À la fois le package habituel, on discutera tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la sécurité et puis des contrats économiques. Et c'est à partir de Khartoum, où leur présence était relativement discrète, qu'ils ont commencé à prendre pied en Centrafrique et puis après à se démultiplier et à prospecter le continent. Ce qui est intéressant dans le fait qu'ils soient entrés par le Soudan, c'est que c'est aussi par le Soudan que la Chine est entrée en Afrique il y a 15 ans, au début de ce siècle, tout simplement parce que ce pays était un pays paria et qu'il a encore toujours, même si la relation avec les États-Unis s'est améliorée, il a toujours un peu la réputation d'être un pays paria. Et donc, il s'est tourné vers la Chine. Il a servi de tremplin à la Chine en Afrique. Et on voit que 15 ans plus tard, et c'est là, ça permet de mesurer aussi le retard de la Russie par rapport à la Chine, il a servi aussi de tremplin discret à Moscou.
Pauline Choubard, c'est néanmoins en Centrafrique, semble-t-il, qu'il y a véritablement une présence armée russe. Et il y a même, je crois, un colonel des services russes auprès du président de Centrafrique. Cela veut dire quoi? Que Moscou exploite en quelque sorte les zones de fragilité, les États les plus affaiblis?
Alors, j'ai plutôt l'impression, en fait, que la Russie cherche à cibler les pays où elle peut avoir un maximum d'impact au moindre coût. C'est-à-dire qu'elle va aller s'appuyer soit sur des pays dans lesquels elle avait déjà des alliés dans le passé, ou bien des pays dont les dirigeants à l'époque soviétique ont été éduqués, ont reçu une éducation à Moscou, par exemple à l'Université de l'Amitié des Peuples, Patrice Lumumba, où de nombreux actuels dirigeants africains ont effectué leurs études. Et donc ainsi, elle profite enfin également du retrait des puissances occidentales, comme vous l'avez dit. En République centrafricaine, c'est justement quand les troupes françaises de l'opération Sangaris se sont retirées en 2016 que la Russie a commencé tout de suite, dès début 2017, à signer un accord de défense avec le gouvernement centrafricain et petit à petit, via des contrats économiques et des livraisons d'armes, à devenir un acteur vraiment important dans ce pays.
Arrêtons-nous quand même un moment sur l'héritage soviétique. Parce qu'il est vrai qu'au moment de la guerre froide, l'URSS a vu en Afrique le moyen de former véritablement des générations. Il y a eu, je crois, 400 000 étudiants africains qui ont été formés dans les universités, à Moscou en particulier, en un demi-siècle. Et donc, jusqu'à quel point est-ce que cette présence-là, qui a imprégné, comme vous l'avez dit, les élites africaines et un certain nombre de régimes jusqu'à ce qu'ils changent, jusqu'à quel point est-ce que cette présence-là facilite, en quelque sorte, le retour de Moscou?
Alors oui, en partie oui, parce que cela signifie que de nombreux cadres, que ce soit au sein de l'armée ou des renseignements de ces différents pays, sont russophones. On conserve peut-être des contacts avec des personnes russes. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de construire des liens sur cette base.
La manière aussi, comme vous l'avez dit, de profiter du retrait des anciennes puissances coloniales ou de celles comme la France qui s'efforce avec un bonheur inégal, de contenir le danger djihadiste au sud du Sahel, on voit que la Russie se sert aussi des outils contemporains, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les médias, enfin Russia Today, l'agence Sputnik, etc., pour mener des campagnes, notamment en Centrafrique, ouvertement anti-françaises.
Oui, alors ça, c'est un point très important. Et je dirais d'ailleurs que c'est même une grande nouveauté dans le retour de la Russie en Afrique, qui, on peut dire, a commencé peu à peu dès le milieu des années 2000. Mais là, depuis les deux dernières années, on voit réellement des nouveaux outils de l'implication russe en Afrique qui apparaissent, dont justement ces campagnes médiatiques qui ont le double objectif de promouvoir et légitimer le rôle de la Russie dans ces pays, de présenter la Russie comme un allié qui vient en aide pour répondre à la demande des gouvernements africains qui cherchent à diversifier leurs partenaires internationaux, et aussi pour attaquer médiatiquement les puissances, les anciennes puissances coloniales, parce que la Russie, son discours, c'est de dire, entre autres, nous n'avons pas colonisé les pays africains, nous venons pour faire former des partenariats avec vous sur un pied d'égalité, contrairement aux autres puissances occidentales.
Arnaud Kalika, est-ce qu'il faut s'attendre à Sotchi, donc à partir de mardi prochain, à une définition, un exposé par Vladimir Poutine d'une stratégie claire, sinon définitive, de ses ambitions africaines ?
Je pense que oui. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais je pense qu'on est aujourd'hui entré dans une phase où l'Afrique ne peut plus être considérée comme la dernière des priorités de la politique étrangère russe. Au contraire, aujourd'hui, cette priorité est bien remontée. Et le fait de conduire et d'organiser un événement à Sotchi, qui est un lieu stratégique pour Vladimir Poutine, le montre. Je pense que la stratégie russe en la matière, ça va être de poursuivre ce qu'ils ont entamé, c'est-à-dire travailler, entre guillemets, dans les zones molles, comme l'a dit mademoiselle juste avant, c'est-à-dire que
Pauline,
dans les pays dans lesquels les Occidentaux sont en difficulté ou sont perçus comme étant en difficulté, avec un travail médiatique de fond, un narratif bien construit, et des pays aussi qui veulent pouvoir diversifier si vous voulez, un petit peu l'offre et la demande, et de ne plus seulement être tributaire de la France ou d'autres anciennes puissances coloniales. Donc en effet, il faut s'attendre à ça.
Est-ce que les motifs économiques sont... On n'en a pas encore... on les a pas abordés, mais on sait que la Russie, qui est elle-même exportatrice de matières premières, c'est même... D'ailleurs, cela reste... un pays qui n'arrive pas à transformer, à avoir une économie de transformation, néanmoins, elle est déjà à l'affût de ressources de rechange pour un certain nombre de métaux, de minerais, et puis elle a ces énormes monopoles d'État, enfin confiés à des oligarques proches de Poutine, et qui sont toujours à l'affût de terrains de chasse nouveaux.
Exactement. Selon moi, en termes d'échanges économiques, l'intérêt fonctionne dans les deux sens. À la fois, la Russie a besoin de l'Afrique pour ce qu'a dit Thierry Vercoulon, pour contourner les sanctions et trouver de nouveaux débouchés, mais également pour ces grands conglomérats qui cherchent des points d'appui en termes de nouvelles ressources et de métaux rares, notamment.
Par exemple ?
Par exemple, tous les dérivés du nickel, du cobalt, pour lesquels la Russie a encore certaines années devant elle sur son sous-sol, mais prévoit un appauvrissement d'ici 2050-2060, selon les statistiques, en tout cas, telles qu'elles sont sorties chez Rostat, l'Institut statistique de Russie.
Le cobalt, c'est le Congo, hein ?
Oui, c'est plutôt ça, oui.
L'uranium, c'est Centrafrique.
L'uranium, bien sûr, oui. Mais l'uranium, il y a aussi d'autres zones qu'ils aimeraient explorer, dans la partie Afrique du Sud et toute l'Afrique également de l'Est. Il y a encore des zones inexplorées. Les Russes espèrent aussi doubler les Chinois en la matière, puisque il faut bien comprendre que sur les aspects économiques, je pense que personnellement que la Russie a beaucoup travaillé sur l'exemple chinois. C'est-à-dire au moment où l'URSS chute, que plusieurs dizaines d'ambassades vont fermer leurs portes en Afrique. Il y a toujours un travail qui s'effectue à la fois au ministère des Affaires étrangères russe, donc le MID, et à l'Académie des sciences, à l'Institut des études africaines, où les études se poursuivent et on analyse tout ce qui se passe en Afrique, notamment la percée chinoise. On analyse aussi les méthodes chinoises, comment ils ont réussi à investir autant et dans tel et tel secteur. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sommet à Sochi ressemble peu ou prou au grand sommet qu'a pu organiser la Chine, qui s'appelait les sommets Chine-Afrique. Alors, je voudrais juste terminer sur l'idée du fait que c'est un...
Non, vous n'avez pas terminé du tout. On va passer encore un peu de temps.
Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un jeu à double sens, c'est-à-dire que l'Afrique, la Russie a aussi besoin de l'Afrique, et la Russie a besoin de l'Afrique pour ses matières alimentaires, les produits agricoles. Donc il y a vraiment un jeu à double sens.
Et quel est le rôle des exportations d'armes ?
Alors, les exportations d'armes pour la Russie, c'est toujours le moteur principal de l'économie russe, qu'on le veuille ou non. C'est la théorie de Georges Sokolov, selon laquelle la Russie est une puissance pauvre, puisque la puissance également économique, son moteur principal, c'est l'industrie d'armement. Or, en Afrique, si on fait un volume global des échanges entre la Russie et l'Afrique, on tourne autour de 20 milliards de dollars, d'après les chiffres de 2018. 20 milliards de dollars, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'Afrique panafricaine ou est-ce qu'on parle uniquement de l'Afrique subsaharienne, ce que la Russie appelle l'Afrique noire ?
Alors que c'est l'Algérie, je crois, qui achète le plus
et l'Égypte,
qui reçoit le plus d'armes russes.
Tout à fait, c'est l'Algérie et l'Égypte qui sont les deux gros clients. Et ensuite, c'est pas grand-chose. Alors c'est vrai que les exportations d'armes ont tendance à croître. La raison est simple, et y compris en Afrique de l'Ouest, c'est que si on parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, l'idée c'est aussi d'avoir de nouveaux types de matériel que la Russie aujourd'hui est en mesure de proposer. Puisque l'industrie d'armement russe a fait beaucoup de réformes, produit de nouveaux matériels, des blindés, des systèmes de défense solaire. Et pour prolonger ce que disait Thierry Vercoulon, ces nouveaux matériels permettent aux autorités russes, lorsqu'elles se déplacent en Afrique, de proposer un package sécuritaire. Vous m'achetez de l'armement, en échange de quoi on va réfléchir à des contrats concessionnaires sur de l'exploitation minière, pétrolière ou gazière.
Cela veut dire, Thierry Vercoulon, que les intérêts stratégiques, au sens, je dirais, classique du terme, continuent de prévaloir. Et vous nous parliez du Soudan, il y a aussi l'Érythrée, donc ça c'est la mer Rouge. Il y a la Libye en Afrique du Nord, et là il y a une présence militaire et des armements russes en quantité.
Oui, tout à fait. Il y a des convergences d'intérêts. En plus, le discours de Moscou est très axé sur la lutte antiterroriste. Et donc, dans le cadre de ces packages sécuritaires dont on parlait, ils démarchent les gouvernements en leur disant que voilà, ils ont une expertise en matière de lutte antiterroriste et ils leur fourniront ce type d'équipement. Et
c'est comme ça qu'ils ont... Ils disent quoi ? Qu'on a tellement bien réussi dans le Caucase,
voilà,
en Tchétchénie.
Voilà, la Tchétchénie, c'était vraiment un succès. Ils mettent ça en avant et c'est pour ça qu'ils démarchent même les pays du G5 Sahel pour leur vendre des armements divers et variés.
Alors le G5 Sahel, rappelez-nous ce dont il s'agit.
C'est-à-dire la coalition qui doit lutter contre les djihadistes au Sahel, la Mauritanie, le Mali, les cinq pays, le Burkina Faso, le Niger et est-ce que j'en oublie un peut-être, je ne sais plus.
Mais en tout cas, oui, une coalition qui était censée mettre sur pied une armée commune et qui n'y parvient pas. Donc ça ne facilite pas la tâche des troupes françaises et des troupes de l'ONU.
Voilà, une armée commune, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas une coalition militaire efficace contre les djihadistes. Le cinquième pays, c'est le Tchad, et qui en effet n'arrive pas à décoller parce qu'il y a trop de problèmes politiques entre eux. Et donc, en effet, ça pose un vrai problème pour la stratégie de sortie de Barkhane. Une opération militaire française.
Jusqu'à quel point est-ce que les intérêts stratégiques de Moscou sont-ils en contradiction ou en confrontation avec les intérêts français et américains ?
Je pense que c'est surtout une question de lutte d'influence, plus que de contradiction d'intérêts. Il est clair qu'ils prennent, comme on disait tout à l'heure, le contre-pied des positions diplomatiques françaises et américaines à l'égard de certains pays. Donc c'était le cas avec le Soudan. Ça a été le cas, en effet, avec la Centrafrique et plus particulièrement le président Touadéra. Grosso modo, je pense que il joue surtout sur le registre de la coalition des pays autoritaires aussi. C'est-à-dire que dans un certain nombre de régimes qui sont critiqués par les Occidentaux, soit pour leur comportement en termes de droits de l'homme, soit parce que les présidents ont décidé de rester présidents à vie, la Russie, au contraire, vient les appuyer. On a vu ça, on a vu le cas avec la Guinée-Conakry, qui est très intéressant, où tout d'un
là,
coup...
Là, c'est un président démocratiquement élu.
Oui, tout à fait, mais qui songe encore à faire un troisième terme et donc à changer la constitution. Et au début de cette année, l'ambassadeur de Russie à Conakry a fait une déclaration publique en suggérant qu'il faudrait changer la constitution et que ça serait une très bonne chose. Derrière, il y a les intérêts de Rusal qui détient une mine, une usine d'aluminium en Guinée-Conakry. Et cet ambassadeur avait justement dit lui-même que la Russie était de retour en Afrique. Il avait signé un édito dans Jeune Afrique qui avait fait pas mal d'effets à cette époque. Donc on voit que c'est aussi, il joue beaucoup sur ce registre politique d'appui au régime autoritaire et aux présidents qui veulent rester en place longtemps, avec un échec quand même notoire qui est la chute de Béchir cette année.
Au Soudan, non ?
Au Soudan, voilà, qui, comme je disais tout à l'heure, était un de leurs éléments clés en Afrique. Et maintenant, la question se pose de savoir ce que vont devenir leurs intérêts, ou en tout cas les contrats qu'ils avaient signés au Soudan avec un nouveau pouvoir qui se met en place.
Arnaud Kalika, justement, ce nouveau pouvoir, c'est quoi ? C'est une sorte de coalition entre les représentants de l'insurrection, l'armée et...
Au Soudan ?
Commençons par le Soudan.
Oui, tout à fait. C'est une coalition qui se met en place en ce moment difficilement, puisqu'il y a eu quand même l'armée qui est montée au créneau, puisqu'ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec notamment les représentants de la société civile. C'est toute la difficulté, hein, qui représente la société civile, quels sont les courants. Ensuite, il y a une complexité soudanaise, parce qu'il y a aussi d'autres courants, m'a-t-on dit, des courants, des sous-courants qui irriguent les courants principaux dont on parle. Et là-dedans, vous me direz, avec qui la Russie va pouvoir traiter ? C'est une très bonne question, sachant que la Russie avait une vraie stratégie sur le Soudan. Elle a même produit un document en 2018 qui s'appelle « Quelle stratégie pour la Russie au Soudan ?» en Russie, qui est un document qui m'a rappelé les grands documents américains qui sont délivrés aux ambassadeurs. Lorsqu'un ambassadeur part en poste dans un pays d'Afrique, il a sa note stratégique. Et bien là, cette note russe, c'est exactement ça, avec des priorités qui sont en effet d'abord le package sécurité. Et là, je pense qu'il faut préciser. Il faut préciser que lors de la dernière tournée du ministre des Affaires étrangères russe, Monsieur Lavrov, le ministre a été doublé par une visite du général Patrouchev du Conseil de sécurité, qui lui est également allé rencontrer les autorités politiques pour leur proposer ce qu'on appelle donc le package de sécurité et les mettre en garde surtout contre le risque des révolutions de velours ou révolutions de couleur. Dixit, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Syrie et plus globalement les printemps arabes, pour lesquels, dans le narratif, en tout cas des affaires étrangères russes, l'Occident n'y est peut-être pas pour rien. Mmh. Et par conséquent, il faut peut-être faire attention à ces alliances. Nous, Russes, nous revenons. Souvenez-vous que nous n'avons jamais participé au partage de l'Afrique au Congrès de Berlin, qu'au contraire, nous avons cherché à vous appuyer dans le cadre de guerre de libération nationale, que Trotsky avait pensé monter une armée rouge d'Afrique dans les années 20.
Avant d'être assassiné.
Bien sûr. Et donc, il y a tout un déroulé, et c'est ce que vous disiez sur l'importance de l'héritage historique, qui aujourd'hui est mis en avant pour expliquer que la Russie, on peut lui faire confiance, et qu'elle n'a jamais, en tout cas, cherché à conduire des révolutions de couleur, nous dit-elle, contre des États souverains.
Ça n'a pas suffi à maintenir Béchir au pouvoir au Soudan. Thierry Vercoulon nous parlait de la Guinée-Conakry. Plus globalement, Le golfe de Guinée, donc c'est cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à quel point est-ce que elle représente des opportunités pour la Russie, des opportunités peut-être plus souterraines et moins affichées, si l'on songe du blanchiment d'argent pour financer des infrastructures ou pour permettre à des personnages influents du Kremlin d'étendre une influence qui correspond aussi aux intérêts russes.
Oui, alors c'est un sujet qui a fait l'objet d'un séminaire récent du GIABA, qui est l'organisme rattaché à la CDAO de lutte contre le blanchiment en Afrique. Pourquoi ce sujet a été évoqué? Tout simplement, eh bien, parce que la Russie s'intéresse à la Banque centrale ouest-africaine et chercherait même à être un acteur pour pouvoir émettre soit du franc CFA, soit de la monnaie locale.
Et ça, ça dépendrait de la décision de cette instance?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un dossier qui est en cours. Mais c'est pour vous dire que, selon moi, aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une vraie stratégie russe en Afrique. Mais que, en effet, la partie de ce qu'on va appeler les flux clandestins, les flux occultes, tout cela n'est pas très clair. Ce qu'on appelle dans le jargon de la compliance l'origine des fonds d'un investissement, c'est toujours très difficile concernant un flux russe. À cet égard, il y a eu beaucoup de théories développées sur une entrée par le Soudan avec un point d'appui en Centrafrique dans lesquels certaines sociétés paramilitaires pourraient aider à du transport d'argent liquide pour l'emmener vers le golfe de Guinée, cet argent liquide qui serait réinjecté selon un schéma vraiment classique, hein, dans des investissements de type infrastructure lourde.
C'est quoi le schéma classique?
Le schéma classique, c'est-à-dire que l'argent liquide est transféré dans des banques, ce qu'on appelle des banques de poche, des banques locales qui vont disparaître quelques mois après, et on ne trouvera plus l'origine des fonds, on pensera que cet argent a été transféré d'une façon tout à fait classique, comme le montrent les rapports de Tracfin tous les ans sur ces schémas, qui sont toujours quand même de plus en plus complexe et élaboré. Et moi, je pense en effet, parce qu'on parle beaucoup des sociétés paramilitaires russes, que les sociétés paramilitaires russes, elles sont là pour sécuriser et conseiller et former, bien sûr, les États clients, comme on peut les appeler, mais ils sont peut-être aussi là pour d'autres intérêts, l'intérêt des grands groupes russes, que ce soit Rosneft, Gazprombank ou d'autres russes, Roussal, bien sûr, d'autres groupes. Tout simplement pour faciliter ces flux et les investissements et sécuriser ces flux.
Et c'est là, Abdam Mostafavi, bonjour, vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, qui est notre partenaire. C'est là où on voit entrer en scène un personnage tout à fait haut en couleur, surnommé le cuisinier de Poutine. Ça remonte à une jeunesse commune à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore Leningrad. Et ce personnage-là entretient véritablement des troupes, sinon une armée de mercenaires que l'on voit à l'œuvre, notamment en Centrafrique.
Oui, il s'agit de la firme russe Wagner, qualifiée par le magazine américain Foreign Policy de sombre groupe de mercenaires qui mènent des opérations secrètes pour le compte du Kremlin un peu partout dans le monde, en Ukraine, en Syrie ou encore en République centrafricaine. Selon le magazine américain, ce groupe a représenté ces dernières années le fer de lance d'une nouvelle politique étrangère russe. Alors qui sont-ils? Il s'agit d'une société militaire privée fondée en 2014 par l'homme d'affaires russe Evgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, vous l'avez mentionné, le fameux cuisinier de Poutine. Mais comme le note une enquête du site américain BuzzFeed, les informations au sujet de ce groupe sont fragmentaires et nébuleuses. Homme au crâne dégarni, souvent saisi par les photographes arborant un air maussade, Evgeny Prigojine était autrefois un petit restaurateur inconnu avant d'apparaître dans la galaxie Poutine, où il s'est vite enrichi en décrochant des contrats lors d'événements publics. Officiellement, les sociétés militaires privées sont interdites en Russie, mais le groupe Wagner de Prigojine agirait tout de même en relation avec le ministère de la Défense russe. Les choses peuvent parfois mal tourner, comme en février 2018 en Syrie, à Deir ez-Zor, où le Kremlin n'aurait pas été averti de l'opération qui a coûté la vie à plusieurs dizaines, voire plus, de mercenaires russes. Pour Foreign Policy, cela montre les limites du modèle russe, Prigogine a aussi été condamné l'an dernier aux États-Unis pour avoir financé la guerre de l'information dans le but de perturber l'élection américaine de 2016. Mais malgré quelques revers, ces mercenaires restent très présents, notamment sur le continent africain.
Et surtout donc en Centrafrique.
Voilà, le New York Times a très récemment consacré une grande enquête à cette présence, à la présence de Wagner en République centrafricaine. Un pays où le gouvernement les a accueillis, il faut le dire, à bras ouverts, car ils pensaient qu'ils apporteraient une sécurité, qui apporterait une stabilité et permettrait de vendre par exemple plus de diamants dans un cadre légal, utiliser cet argent pour reconstruire le pays. Mais l'aide russe a un prix, en tout cas c'est ce que pense le New York Times. Les mercenaires russes se sont parfois alliés à des rebelles pour obtenir des diamants dans des zones où leur commerce est interdit, renforçant ainsi l'instabilité qu'ils étaient théoriquement venus combattre. Prigogine est personnellement très impliqué dans le pays. Il a participé aux négociations de paix avec les rebelles et sa présence préoccupe en partie la communauté internationale, dit le quotidien américain. Trois journalistes qui enquêtaient sur les activités de Wagner en République centrafricaine ont été retrouvés tués dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées. Par ailleurs, comme dans l'élection américaine, la bataille pour le contrôle du pays se joue aussi dans le monde virtuel. Le New York Times raconte que parallèlement à l'arrivée des mercenaires dans le pays, des profils pro-russes sont apparus sur les réseaux sociaux montrant des photos de Centrafricains portant un t-shirt avec un cœur rouge géant et le slogan « Russie 2018 ». D'autres tactiques de soft power sont également employées, puisque M. Prigogine a même sponsorisé un tournoi de football local et l'élection de Miss Centrafrique. Pour le New York Times, les Russes ne cherchent pas à déstabiliser le pays, comme cela a pu être le cas en Europe, en Ukraine notamment, mais ils veulent affirmer l'importance globale de la Russie et en récolter évidemment les bénéfices financiers. La présence russe en Afrique n'est pas prête de disparaître, puisque selon le quotidien américain, plusieurs pays comme la RDC ou la Guinée ont demandé justement aux mercenaires russes de les aider en matière de sécurité.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Karine Pinard ne vous a pas encore entendue, mais vous êtes spécialiste de la Chine, de la présence de la Chine en Afrique, et il y a été fait allusion plusieurs fois déjà. Peut-on véritablement comparer la façon dont la Russie essaye de revenir sur le continent africain et la manière dont la Chine s'y est installée depuis maintenant une quinzaine d'années? Est-ce qu'il y a des points communs, autrement dit?
Oui, il y a des points communs, pardon, excusez-moi, et notamment hein, pour le fait qui va décider de cette venue en Afrique. Pour la Russie, hein, c'est bien sûr les sanctions européennes, et pour la Chine, c'était 1989, l'après Tiananmen, les sanctions de l'Union européenne, mais aussi de l'ensemble des pays industriels, États-Unis et autres. Donc dès l'été 1989, les Chinois sont allés voir leur partenaire qui ne les a pas condamnés pour le massacre de Tiananmen et qui parfois même les a soutenus, donc dans un certain nombre de pays africains également. Donc la Chine, enfin les relations entre la Chine et bon a toujours rencontré hein, la Russie voire l'URSS hein, sur son chemin, puisqu'on peut globalement voir trois étapes hein, entre la Chine et le continent africain. L'Afrique peu accessible parce que justement dans les années 50, d'abord la Chine n'avait pas les moyens qu'elle a aujourd'hui. Elle se positionnait politiquement et idéologiquement de manière bien plus ferme qu'elle ne le fait aujourd'hui, et elle se heurtait aux puissances européennes, mais également hein, au précaré de l'Union soviétique. Le grand amour Union soviétique Chine a bien sûr été contrarié, et donc mis à part quelques pays, les autres n'ont plus voulu entendre parler de la Chine, notamment hein, lorsque celle-ci s'est lancée dans la révolution culturelle. Puis bon, la Chine mettant en place sa propre, alors elle a continué hein, quand même à notamment avec le Soudan qui est un de ses plus anciens partenaires puisque ça date de 1958.
Et là il y a d'énormes investissements chinois
aujourd'hui
au Soudan.
Oui, puisque à partir donc des années 89 hein, 90, l'Afrique a été privilégiée et c'est devenu un acteur majeur dans les relations internationales de la Chine. On peut dire que l'Afrique symbolise ou sert la Chine de trois manières. C'est d'abord, hein, comme pour la Russie, on peut le comparer, c'est un vaste réservoir de ressources naturelles, de ressources agricoles aussi. Alors si la Chine n'a pas les ressources naturelles que l'URSS peut avoir... La Russie d'aujourd'hui, elle en a besoin également. L'agriculture, hein, c'est un enjeu, hein, y compris avec le changement climatique et le problème des terres arables en Chine. Donc on sait que la Chine investit dans des vastes fermes agricoles, notamment au Zimbabwe, et qu'elle y produit des denrées qu'elle renvoie en Chine. C'est également, alors là, peut-être une différence avec l'URSS, hein, puisque la Chine, depuis qu'elle a fait sa réforme en 1978, était devenue un vaste atelier de production mondiale. Et à la différence, hein, je pense, de la Russie, elle est devenue un pays exportateur. Aujourd'hui, elle a monté dans l'échelle des valeurs, comme on dit, au niveau de production, et il lui faut écouler ses biens manufacturés. Et l'Afrique est devenue un vaste marché de cet écoulement des biens manufacturés.
Et avec beaucoup de Chinois sur place.
Alors, avec beaucoup de Chinois, et donc c'est la troisième ouverture, mais alors là, c'est politiquement incorrect de le dire. Mais
Allons-y.
Mais l'Afrique est devenue une extension du marché du travail chinois. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a une main-d'œuvre que l'on a d'abord surabondante, mais aussi qu'on n'arrive plus à employer en Chine. Le terme de chômage, hein, c'est quelque chose qui n'est pas applicable en Chine puisqu'on n'a pas de calcul, mais il y a une surabondance de main-d'œuvre et il faut bien trouver quelque part où les mettre.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de Chinois présents ?
Alors, officiellement, hein, on en est à, 300 000. Officieusement, on en est à 1 million. Bon, je veux dire, c'est absolument impossible de savoir le nombre de Chinois qui sont depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc ça fait quand même trois décennies. Donc ça fait quand même un nombre assez important. Emmanuel Mamong, un collègue, appelait ça le grand bazar de la migration chinoise, hein, ce qui est vrai. Et Thierry Perrault, hein, qui est un spécialiste, lui, hein, des relations Chine-Afrique, montre bien que c'est très difficile. C'est un coloriage, hein, de l'ensemble des migrations que l'on peut avoir. Mais néanmoins, cette base de la population, ce qu'on pourrait appeler ce point positif démographique, peut-être que la Russie ne pourra pas, puisqu'elle n'a pas ce...
Elle n'a pas ce réservoir, au contraire.
On pourrait le comparer en Sibérie, puisque les Chinois vont en Sibérie, là où la population, justement, russe, hein, est partie, et elle n'a plus le potentiel démographique. La Chine a ce potentiel démographique et elle a sciemment joué de cet élément pour asseoir sa puissance à l'étranger. Alors, c'est pas, hein, des cargos, hein, qui sont déversés, c'est à la fois des cadres des grandes entreprises, c'est des petits migrants entrepreneurs, c'est des touristes, c'est des détachés, etc. Mais pour eux, c'est un Eldorado. Alors, c'est un mat de cocagne, hein, tout le monde ne réussit pas, mais on a quand même quelques belles réussites, hein, dans les différents pays africains, hein, concernant les entreprises chinoises.
Pauline Chouba, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions économiques et sécuritaires dans le monde russe. Il y a une autre dimension qu'on n'a pas encore abordée, qui est le clientélisme diplomatique. On l'a vu dans le cas de la Chine, qui a quand même obtenu, grâce au vote des pays africains, la direction de la FAO, c'est-à-dire l'organisme des Nations Unies chargé des problèmes alimentaires. Jusqu'à quel point est-ce que pour la Russie, là aussi, ce clientélisme est très utile à l'ONU quand il s'agit de soutenir les positions russes ?
Alors oui, tout à fait. On a d'ailleurs observé cela au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Le Soudan, par exemple, a soutenu deux fois la Russie à l'ONU sur cette question. Donc par ce biais, évidemment que la Russie aimerait bien arriver à avoir plus de partenaires à l'international qui seraient prêts à, sinon porter sa voix, au moins s'abstenir de voter lors de divers... conseil de sécurité dont les décisions seraient contraignantes.
Et c'est là où on a vu notamment le rôle diplomatique du Zimbabwe, qui, malgré l'état épouvantable dans lequel Mugabe, qui avait, je crois, des liens personnels avec Vladimir Poutine, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais donc le dictateur qui vient de mourir à un âge avancé, le Zimbabwe a joué un rôle tout à fait important en soutenant à chaque fois la position russe à l'ONU et notamment sur la question syrienne.
Oui, voilà. Et là, encore une fois, le Soudan aussi a joué un rôle à ce sujet, sur le sujet syrien. Notamment, la Russie a organisé une rencontre entre Omar el-Béchir et Bachar al-Assad. Et c'était une manière de montrer que des dirigeants africains sont prêts à dialoguer avec le dirigeant syrien que soutient Moscou.
Et d'ouvrir des ambassades ou de les rouvrir, comme ça a été le cas. Jusqu'à quel point est-ce que se voit se dessiner une stratégie russe en Afrique qui serait concurrente de la stratégie chinoise? Ou est-ce que c'est d'abord, comme vous l'avez dit, une question d'opportunisme et surtout par rapport aux anciennes puissances coloniales européennes?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire que la Russie a l'ambition de faire concurrence à la Chine. Ce serait peut-être plutôt l'idée de faire une concurrence justement aux puissances occidentales. C'est-à-dire que la Russie, dans son environnement international, se sent un peu prise en étau depuis la chute de l'URSS par le fait que les puissances occidentales, donc via l'élargissement de l'OTAN, l'élargissement de l'Union européenne, commencent à compter parmi leurs alliés, des anciens alliés de l'Union soviétique.
Enfin oui, des alliés ou...
Oui,
des protectorats.
Oui. Voilà, mais en tout cas, la Russie continue de voir ces pays-là dans sa périphérie comme faisant partie de sa zone d'influence. Elle voit vraiment d'un mauvais œil le fait que ces pays-là maintenant, pour certains, ont fait un clair choix plutôt européen ou occidental. En s'investissant davantage dans certains pays d'Afrique où les anciennes puissances coloniales avaient conservé une influence importante, c'est comme si elle essayait de maintenant jouer dans leur jardin à eux et dans leur sphère d'influence entre guillemets à eux. Encore une fois, s'établir comme un acteur incontournable dans un monde multipolaire à l'international.
Karine Pina, jusqu'à quel point est-ce que dans certains pays africains, il n'y a pas une lassitude ou une sorte de méfiance vis-à-vis des méthodes chinoises et en particulier des contrats de financement qui sont considérés comme plutôt défavorables ou trop exigeants? Des prestations dont la qualité n'est pas toujours garantie
Alors, oui, on peut clairement dire, hein, et surtout, ça vient surtout de la population, que si pendant un certain nombre d'années, les deux premières décennies, la population africaine a été très contente de l'arrivée de la Chine, notamment justement pour ses biens manufacturés, aujourd'hui, hein, la population se rend bien compte que la Chine est là aussi pour ses intérêts et pas forcément hein, pour ceux de la population africaine. Alors, suite à des manifestations dans différents domaines, au mécontentement de la population africaine dans différents pays, alors en Afrique du Sud, hein, Mbeki a dû, par exemple, hein, négocier avec la Chine des quotas de textiles parce que le textile chinois allait totalement détruire hein, l'industrie textile de l'Afrique du Sud. On sait, hein, par exemple, que au Sénégal, parmi les migrants les plus pauvres, hein, certains prenaient hein, les petits métiers des rues. Hein, formel et que la population en a eu là aussi largement assez. Donc de la même manière, on a demandé à la Chine qui coupe beaucoup de bois hein, pour l'exporter parce qu'elle est très consommatrice de bois africain et de bois notamment précieux. On a les pays africains ont dit stop, vous allez le transformer sur place pour que nous puissions hein, nous aussi avoir hein, des bénéfices d'apprentissage, etc. Donc la Chine a accepté. Hein, c'est globalement, elle sait très bien que si elle n'accepte pas, elle va perdre ses avantages, hein, notamment en matière de ressources. Donc et d'autant plus que ça va dans les intérêts chinois qui aujourd'hui en Chine a une main d'œuvre trop chère. Elle a besoin de délocaliser ses entreprises. Donc les modalités de la coopération économique sino-africaine sont en train de changer. Pour plus de positif pour l'Afrique, ça c'est aux Africains hein, de le voir, mais eux sont très clairement au fait hein, de ce que la Chine attend. Concernant les prêts, alors là, bon, c'est apparemment, hein, ces prêts ne sont pas viennent, disons, sur la scène médiatique, hein, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas répertoriés par les grandes institutions. Ces prêts, hein, ce sont des prêts à taux préférentiel, mais qui sont très contraignants, hein, pour les États qui les prennent, puisque non seulement ce sont des prêts qui, lorsqu'on doit les dépenser pour des infrastructures, doivent privilégier les entreprises chinoises. On a fait ça également, hein, en Europe, donc la Chine fait la même chose. Des entreprises, par exemple, d'infrastructures du bâtiment, mais avec une main-d'œuvre, donc doublement privilégiée, et en échange desquelles, bien sûr, soit on se fait payer au taux d'intérêt, mais via des matières premières, soit on met globalement des grandes infrastructures, ou des banques, ou des pans entiers, hein, de ressources minières, par exemple, en gage, si jamais je n'arrive pas à payer, etc.
Bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la différence de la Russie, enfin on va voir, oui, ce qui va se passer à Sochi dans les jours qui viennent, mais Xi Jinping, le président chinois, lui, il a clairement affiché sa stratégie pour l'Afrique, y compris, et ça c'est nouveau je crois, sur le plan sécuritaire.
C'est exact. Alors bon, Xi Jinping, hein, a affiché là aussi. Bon, alors il est arrivé, hein, bien sûr, dans la suite, hein, de Hu Jintao et de Jiang Zemin, qui ont assis, hein, cette politique sino-africaine. Il la confirme, il l'affirme, hein, de par ses visites, hein, là aussi très régulières, et notamment encore, hein, cet été. Et c'est vrai que, alors, je ne peux pas, on ne sait pas, enfin, je ne pourrais pas dire qu'il y ait une corrélation évidente entre l'intérêt russe et cette nouvelle institution, hein, cette nouvelle réunion. Mais depuis juillet 2019, la Chine, avec Xi Jinping, sous, bien sûr, hein, l'impulsion de Xi Jinping, a organisé le premier forum paix et sécurité Chine-Afrique, où il n'est question que de questions sécuritaires et d'armement. Alors, oui, la Chine vend quelques armes, hein, en effet, c'est à peu près 17%, hein, du marché des armements en Afrique. C'était normalement pas son précaré. Elle a quelques militaires présents, alors soit via les forces multilatérales, soit via Djibouti, hein, où elle a comme ambition...
Elle a une base militaire
de quelques centaines, hein, mais qui prévoit d'être multipliée par 10, hein, d'ici 2020. Alors, normalement, avec la première manifestation militaire, hein, de la Chine pour elle-même, ça a été l'évacuation des ressortissants chinois de Libye avec du matériel chinois, hein, notamment les fameuses vedettes. Là, ça a été pour montrer aux Chinois sa capacité de défendre les intérêts des entreprises privées et des entreprises publiques à l'étranger. Est-ce que, bon, elle vend certainement des armes, c'est du troc, hein, ce que va faire la Russie, hein, ressources contre armes. Mais là, peut-être que ce forum, peut-être va-t-elle se positionner aussi en disant, voilà, j'ai quand même aussi cette possibilité-là, et je vais peut-être devoir la défendre face à la Russie, qui va pouvoir me prendre des parts de ressources naturelles, puisque peut-être elle est plus avancée, hein, en matière d'armement et de vente d'armes dans différents domaines.
Il y a aussi, de la part de Xi Jinping, la volonté affirmée d'utiliser la diaspora chinoise.
Ah oui, alors ça, c'est une volonté qui a été affirmée, hein, depuis 2014-2015 et qui a été matérialisée de manière très, disons, subtile et très, très pas secrète, hein, mais seules les personnes qui, globalement, s'intéressent comme moi à la politique de la Chine vis-à-vis des ressortissants et des Huaxia ou des Huajian à l'international, c'est que cette politique a été mise sous l'impulsion de Xi Jinping, sous de nouvelles institutions, qui est là aussi une réminiscence, hein, du Parti communiste chinois et de Mao Zedong, sur le Front Uni, le département du Front Uni, hein, qui est une institution qui soutient le Parti communiste chinois, qui est sous le comité central du Parti communiste et qui est directement dirigé par Xi Jinping. Avant, le bureau des Chinois d'outre-mer, qui était une sorte de ministère qui s'occupait des Chinois d'outre-mer, était, hein, sous la férule du Conseil d'État, hein, donc conseil comme un gouvernement. Il a été sorti de là et il a été mis sous cette nouvelle direction avec des impulsions et des nécessités données par Xi Jinping, qui est de se servir, de s'appuyer sur cette diaspora, les plus influents bien sûr, les plus riches bien sûr, pour influencer très nettement les politiques des gouvernements dans des pays d'accueil.
Précisément, Arnaud Kalika, jusqu'à quel point, pour la Russie, ces ambitions qui seront exprimées à Sotchi par Vladimir Poutine correspondent ou correspondent, disons, au récit qui est déjà celui de la Chine. C'est-à-dire qu'en gros, le monde aujourd'hui n'est plus un monde bipolaire, Occident, bloc ex-soviétique, mais bien un monde où la Chine, en tout cas, ou bien revendique une nouvelle bipolarité en sa faveur, ou bien au contraire plaide pour un monde multipolaire où elle aurait un rôle dominant. Est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau du discours, de ce que on appelle en franglais le narratif, une rivalité naissante?
C'est possible, mais on pourrait aussi penser que les intérêts russes et chinois pourraient un jour se rejoindre. Parce que, en effet, il y a ce narratif, entre guillemets, de multipolarité, mais en même temps, la Russie estime être le leader plutôt d'un monde un peu alternatif au monde des relations internationales tel qu'on le connaît. Je dis que ces intérêts pourraient se rejoindre parce que ce soit la volonté de réforme et d'élargissement du Conseil national de sécurité de l'ONU, la Chine y serait plutôt favorable, que ce soit également l'ouverture du G5 Sahel à des postes d'observateurs extérieurs, ce que revendique la Russie, même si pour l'instant elle ne l'a pas le dit publiquement, mais on sait qu'elle le revendique. La Chine est plutôt aussi dans cette optique. Que ça soit également dans le domaine de l'infrastructure portuaire, civilo-militaire. On a presque l'impression qu'il pourrait y avoir peut-être un partage du gâteau entre ce que la Chine pourrait prendre et ce que la Russie pourrait prendre et conserver. On a parlé de Djibouti. Je pense que ça fait partie vraiment du trou dans la raquette stratégique russe, le fait d'avoir loupé le train à Djibouti. D'autant plus que, historiquement, la Russie nous rappelle qu'elle était présente à Sagalou, l'ex-Djibouti, à la fin du XIXe siècle, et que ce sont les Français qui les en ont chassés manu militari. À l'époque, c'était des Cosaques qui étaient envoyés du Tsar. Mais en tout cas, comme les Russes ont plutôt la mémoire longue, le fait de ne pas être à Djibouti alors que la Chine aujourd'hui a une base, ça fait réfléchir. Donc, les intérêts pourraient très bien se rejoindre. Je ne vois pas pourquoi, finalement, ils seraient en opposition, en tout cas sur ce théâtre africain. En revanche, la rivalité sino-russe, je pense qu'elle est une rivalité de vision du monde, ça c'est certain, et peut-être même civilisationnelle, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'école des relations internationales russes est une école qui se dit, entre guillemets, réaliste et plutôt très proche de Huntington, dans une optique...
Huntington qui avait donc prévu la fin de l'histoire.
Qui avait prévu le clash des civilisations. Oui. Et donc, en effet, à la fin de ces scénarios, il y a une grande bataille islamo-confucéenne dans laquelle le monde orthodoxe essaie de trouver sa place. Et ça, c'est un discours qui a beaucoup pris en Russie. Et donc, en effet, je pense qu'il y a peut-être en effet donc cette rivalité sur la vision du monde, mais des intérêts qui peuvent se rejoindre sur des théâtres tiers dont l'Afrique fait partie.
Thierry Vircoulon, est-ce que cela veut dire que si véritablement il y a cette convergence d'intérêts et cette convergence aussi dans le vocabulaire employé pour raconter le monde d'aujourd'hui et singulièrement les luttes d'influence en Afrique, est-ce que c'est directement nuisible à nos intérêts, aux intérêts français? On se souvient que la ministre des Armées, Florence Parly, je crois que c'était au forum de Dakar l'an dernier, a clairement dit les Russes en Centrafrique, c'est très mauvais pour la stabilité de la région.
Oui, le discours a un peu varié parce que le ministre des Affaires étrangères actuel, Le Drian, a après dit que la Centrafrique ne doit pas être un terrain de lutte d'influence, etc. Ils ont été tous les deux à Moscou, donc on sent qu'il y a eu des discussions franco-russes après ça et qu'on a un peu tourné la page de ce moment-là. Mais le problème, je pense, c'est que on s'interroge beaucoup sur quels sont les intérêts français encore en Afrique. Je crois que ce gouvernement, comme comme les autres, n'ont pas d'idées toujours très claires, en tout cas dans la longue durée. On parlait de la Chine tout à l'heure qui, elle, annonce une politique de très longue durée en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Je pense qu'en France, on n'est pas capable de faire ça.
Ben, c'est plus facile dans des régimes autoritaires.
Oui, tout à fait, c'est plus facile. Mais je crois qu'il y a un vrai dilemme sur la politique africaine de la France qui n'a pas été tranchée, qui n'est pas tranchée par tous les gouvernements depuis le début de ce siècle, qui est de savoir si il faut tourner la page et quitter un certain nombre de pays qui sont en ruine, comme on parlait de la Centrafrique tout à l'heure, ou de rester, mais en changeant véritablement notre approche politique et notre approche d'aide au développement.
Enfin, il faut quand même rappeler qu'il y a des troupes françaises qui sont à peu près les seules à se battre au Mali.
Oui, l'intérêt là, c'est la lutte contre le djihadisme. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Afrique en elle-même a-t-elle vraiment un intérêt autre que d'être un objet, soit pour les djihadistes qui y sont, soit pour les matières premières qui sont dans son sous-sol. Et donc les populations sont évidemment laissées de côté dans ce type de raisonnement. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'il y a en effet une Poutine a voulu un peu marquer le coup à l'égard du gouvernement français avec cette opération en Centrafrique, en allant évidemment aussi démarcher d'autres pays francophones comme Madagascar, où ils ont signé un accord de défense et où ils sont assez actifs en ce moment, et donc en envoyant le signal à Paris qu'on va aller marcher dans votre ancien précaré, je dis ancien parce que là aussi à Paris on n'est plus trop certain de la définition du précaré, ou si même il faut parler de précaré.
Oui, c'est pas un vocabulaire pour le coup politiquement correct.
Voilà, exactement.
Tout à l'heure.
Exactement, et donc comme il y a, je pense que ces intérêts sont pas très clairs, c'est difficile de voir s'ils entreront en conflit. Mais ce qui est clair, c'est qu'en effet, Poutine a voulu envoyer des messages au gouvernement français, notamment dans le cadre de la crise ukrainienne et de les positions opposées qu'on avait sur le thème. On peut vous déranger,
et qu'on a
toujours. On peut vous déranger dans des régimes amis ou dans des régimes où vous voulez avoir une influence. Et je pense que à Paris, on ferait bien de s'interroger sur le fait de savoir si la Centrafrique, en effet, est vraiment un pays d'influence pour notre politique étrangère.
En tout cas, merci à vous tous. On va suivre, évidemment, avec plus d'attention encore ce qui va se passer à Sotchi dans quelques jours. Donc ce sommet russo-africain avec une cinquantaine de chefs d'État invités par Vladimir Poutine. Merci à vous, Thierry Vercoulon, coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale à l'IFRI. L'IFRI qui publie régulièrement sur son site toutes sortes de notes fort intéressantes, à commencer par la vôtre, Arnaud Kalika, une note sur le grand retour de la Russie en Afrique, mais avec un point d'interrogation, ai-je noté, c'était en avril dernier. Merci à Pauline Tchoubar, spécialiste des questions économiques et sécuritaires dans l'espace post-soviétique. Votre note sur la nouvelle stratégie russe en Afrique subsaharienne vient d'être publiée par la Fondation sur la recherche stratégique. Merci à vous, Karine Pina, chercheuse associée au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, et là aussi sûrement sur le site de cette institution. Toutes sortes de choses intéressantes. Je recommande aussi en particulier un ouvrage qui vient de paraître chez Fayard, signé par notre ami Eric Scholl, qui a été très longtemps le représentant de Courrier International dans cette émission, Eric Scholl et Gilles Fontaine, un ouvrage intitulé « Il est midi à Pékin, le monde à l'heure chinoise ». Merci à Hamdam Mostafavi de Courrier International, à Luc-Jean Reynaud qui était ce matin à la réalisation, Tahar Bouklifa était à la technique, Hugo Boursier a préparé cette émission et mettra, comme d'habitude, sur notre site toute la bibliographie nécessaire à satisfaire votre curiosité. Et maintenant, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.